spirale d'autant. Je pensais mieux ICO, mais à tout faire à contre-courant. On se brise les... Je me voyais toute une vie durant dans la ville rose. Pas être un simple figurant, mais celui qui vise le rôle. Dans cette spirale d'autant, je pensais viser haut, mais à tout faire à contre-courant. On se brise les os. J'ai été ballotté de spirale en spirale. Je me suis foutu dans une mission où y a pas de pose pirate. Au regard de mes projets, je me suis dit qu'est-ce qui rame. Peut-être que je m'inspire mal ou de choses irrespirables. Mon esprit râle, nos liens sont passés au test inap. Cette mesquine âme estomac et me file des crampes intestinales. Ou peut-être que j'estime mal les breaks interminables sur ma festina. J'ai eu des gestes minables, tout ça pour des broutilles. J'ai eu le pouce de Ponce Pilate appuyé sur la goupille, prêt à faire péter la grenade et rendre l'âme dans l'engrenage. Entre Narg et moi, on nourrissait notre cancre là. Il était temps de prendre le large et tourner la page quand y a plus d'engagement dans l'attachement. Mes opinions n'ont plus l'âge tendre. Maintenant j'accepte lâchement de recevoir de l'amour quand l'âge tend. Je me voyais toute une vie durant dans la ville rose. Pas être un simple figurant, mais celui qui vise de...
Il est 4h en temps universel. Merci d'écouter Radio France Internationale, 6h ici à Paris. Gaëtan Plenet pour le journal. Bonjour Gaëtan.
Ah, bonjour Edouard, bonjour à tous.
De la chaux et du formol, il en faut en ce moment au Venezuela.
Ah, pourtant le pays en manque. Après le double séisme de mercredi, le bilan continue de s'alourdir. On en est à plus de 1700 morts. Le projet de réforme constitutionnelle adopté au Sénégal au terme d'échanges houleux à l'Assemblée, le président Bassirou Diomaye Faye veut passer par un référendum. L'actualité, c'est aussi ces nouvelles discussions à venir cette semaine entre l'Iran et les États-Unis, même si les contours en sont encore flous. Le gouvernement irakien qui donne aux milices pro-iraniennes jusqu'au 30 septembre pour se désarmer. Et puis le secteur funéraire débordé en France après la canicule. Mais d'abord, la Coupe du Monde masculine de football. On en est au 16e de finale et ça vient de se terminer, Pauline Guillou, ce match entre les Pays-Bas et le Maroc.
Exactement, ça y est, c'est terminé. Les Lions de l'Atlas éliminent les Pays-Bas au tir au but après une séance irrespirable. On le voit sur au stade de Monterrey. C'est une très très belle ambiance. Hein, le sélectionneur Mohamed Warbi qui est célébré alors qu'on n'en est qu'au 16e de finale. Hein, mais il fallait l'avoir, cette séance de tir au but irrespirable. Je le disais, encore trois poteaux côté marocain. Et finalement, la balle de match signée Ismaël Saïbari. Le Maroc se sort d'un sacré bourbier. C'était l'un des chocs de ces 16e de finale. Maroc-Pays-Bas, pas vraiment de favoris, mais de la pression, en tout cas pour le Maroc. Interdiction de perdre, surtout après leur demi-finale historique en 2022 au Qatar. Un match un peu fou dans son scénario. Cody Gakpo, buteur à la 72e minute pour les Pays-Bas, effondré car il traverse en ce moment un drame personnel, est bien parti pour qualifier les Oranges, mais les Lions de l'Atlas ne meurent jamais et décidés à rester sur le continent américain qui ont égalisé à la 91e minute. Une tête rageuse signée du défenseur Issa Diop. Le Maroc qui rejoint donc les 8e de finale et affrontera le Canada pour une place en quart.
Merci Pauline Guillou du service des sports de RFI. À noter cette surprise, peut-être la plus grande à ce stade de la compétition. Le Paraguay qualifié aussi pour les huitièmes de finale en éliminant l'Allemagne, là encore au tir au but. Le Brésil de son côté s'est qualifié en battant le Japon 2-1. À suivre aujourd'hui à 17h en temps universel, la Côte d'Ivoire face à la Norvège. Et puis à 21h, toujours en temps universel, la France face à la Suède. C'est une livraison qui donne une idée de la situation désastreuse à laquelle est confronté le Venezuela. 6 jours après le double séisme qui a ravagé le pays, l'ONU a annoncé fournir 10 000 sacs mortuaires aux autorités de Caracas. Car si plus de 1 700 corps sans vie ont déjà été retrouvés, il y a aussi plus de 5 000 blessés et, selon les Nations Unies, 50 000 disparus potentiellement piégés sous les décombres des bâtiments effondrés. Les opérations de secours se poursuivent avec notamment quelques 130 marines américains envoyés sur place. Ils ont déjà permis la réouverture du port de La Guaira où va pouvoir débarquer l'aide humanitaire. Elle est terriblement nécessaire, comme nous l'explique Cathy Santana, assistante sociale dans un quartier populaire de Caracas.
Les hôpitaux réclament de la chaux et ils réclament aussi du formol. Pourquoi ? Parce que le nombre de morts est énorme. Et qu'est-ce qu'il arrive à ces cadavres qui commencent déjà à se décomposer, en particulier à La Guaira, qui est une zone très chaude ? Eh bien, vous pouvez l'imaginer. Normalement, on ne peut pas utiliser de la chaux pour les cadavres parce que cela accélère leur décomposition. Cela fait disparaître les traits de leur visage, leurs empreintes. Mais dans un pays comme le nôtre, il faut agir tout de suite, car nous n'avons pas de sac en plastique pour emballer les cadavres. Et beaucoup de ces cadavres finiront dans des fosses communes parce qu'ils n'ont pas été identifiés. Il y en a beaucoup trop. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de morts qu'il y a en ce moment.
Des propos recueillis par Abla Jounaïdi. Nous sommes le mardi 30 juin 2026, une date qui fait trembler les étrangers installés en Afrique du Sud car elle marque la fin de l'ultimatum fixé par des groupes anti-immigration. Ils avaient laissé jusqu'à aujourd'hui aux immigrés illégaux pour quitter le pays. Certains l'ont fait, des milliers, notamment de nombreux Malawites. De grandes marches anti-immigration doivent avoir lieu aujourd'hui, faisant craindre des violences xénophobes comme ça a pu être le cas dans le passé. Les élus n'ont pas la volonté d'arrêter la xénophobie en Afrique du Sud, dénonce Marc Gbafou, fondateur et ancien président du Forum de la diaspora africaine. Il sera l'invité de la rédaction africaine ce matin. Entretien à écouter notamment aux alentours de 5h45 en temps universel. 129 voix pour 129 votants, une unanimité qui s'explique hier au Sénégal au moment de voter la réforme constitutionnelle portée par le PASTEF. Les débats ont été tendus, très tendus, à tel point que l'opposition a fini par quitter la salle. Seuls sont restés les députés du PASTEF qui ont donc adopté ce texte qui prévoit notamment le renforcement des pouvoirs de l'institution parlementaire, mais aussi l'impossibilité pour le président de la République d'être chef de parti. Le président, justement, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé qu'il soumettrait ce texte à référendum alors que cette réforme cristallise les tensions avec son ex-premier ministre Ousmane Sonko, désormais à la tête de l'Assemblée nationale. Correspondance de Juliette Dubois.
Les amendements portés par le camp de Bassirou Diomaye Faye via son ministre de la Justice ont tous été rejetés par la majorité parlementaire, notamment celui qui aurait maintenu le droit pour le chef de l'État de diriger un parti politique. Après le vote, Ousmane Sonko n'a pas mâché ses mots contre son ancien camarade.
La caution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au nom de quoi une seule personne peut se donner la latitude de faire un tri des dispositions qui lui conviennent et de celles qui ne lui conviennent pas. C'est tout ce que PASTEF a combattu pendant 10 ans, avec tous les sacrifices qui ont été consentis, que le président a voulu fouler du pied.
Ousmane Sonko demande au président de promulguer la loi telle qu'elle. La journée a été marquée par des échanges houleux, des échauffourées dans l'hémicycle et un boycott de l'opposition. Pour les opposants à la réforme, 2 voix permettraient encore de bloquer le texte, la saisine du Conseil constitutionnel ou le référendum. C'est cette option qui a été retenue par Bassirou Diomaye Faye, selon son ministre de la Justice, qui en a fait l'annonce. La piste suscite des réserves, notamment sur le plan financier et logistique. Le député d'opposition non inscrit, Tierno Alassane Sall.
Le PASTEF est dans la ligne de faire de l'Assemblée nationale un contre-pouvoir puissant qui étoufferait le président de la République. Il n'a plus d'autre choix que de pousser vers le référendum. Et c'est malheureux parce que est-ce que le Sénégal peut se payer le luxe d'un référendum avec toutes les dépenses afférentes alors qu'il y a des priorités qui nous étreignent et qu'on a le calendrier électoral qui est déjà lourdement chargé.
Des élections locales sont déjà prévues en janvier 2027. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Qui va parler, quand et de quoi? C'est encore confus alors qu'on nous annonce des discussions à venir cette semaine au Qatar entre l'Iran et les États-Unis qui visiblement ne sont pas d'accord sur les modalités. Côté américain, on parle de réunion de haut niveau. Simple discussion technique, disent de leur côté les Iraniens. L'idée, c'est en tout cas a priori actée de maintenir en vie le protocole d'accord signé le 17 juin. Et ce, malgré les attaques mutuelles de ce week-end. Israël et le Liban, de leur côté, ont bien signé un accord cadre vendredi dernier dans le but d'aboutir à une paix durable. Mais les frappes israéliennes se poursuivent pourtant dans le sud du Liban, comme hier soir, selon l'agence libanaise ANI, des avions de guerre de l'État hébreu auraient mené un raid entre les localités de Kantara et Deir Seryan. L'accord signé en fin de semaine prévoit entre autres qu'Israël cesse d'occuper le sud libanais une fois que le Hezbollah aura rendu les armes, ce que le mouvement chiite refuse de faire. En Irak, ce sont les milices pro-iraniennes qui ont jusqu'à la fin du mois de septembre pour se désarmer. Ultimatum fixé hier par le gouvernement irakien sous la pression de Washington. Le 30 septembre, très exactement, ce qui doit coïncider avec la fin de la coalition internationale anti-djihadiste dans le pays. Mais là aussi, certaines milices pourraient s'y opposer. Hassni Abidi est le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
Il y a des groupes qui sont moins puissants et moins soutenus. Et il y a d'autres qui sont plus déterminés à garder leur armement parce qu'ils sont liés à l'Iran et parce que ils détiennent des moyens économiques, financiers et militaires très importants comme le Hezbollah irakien et le groupe An-Nujaba. Et je pense qu'il y aura beaucoup de difficultés à les convaincre d'abandonner leurs armes au profit de l'armée irakienne. On sait que cette exigence à la fois du gouvernement irakien, mais c'est surtout une exigence de la part de l'administration américaine, sans quoi des sanctions vont être prises contre le gouvernement irakien sur le plan économique et sur le plan militaire. Il faut rappeler que la date du mois de septembre coïncide avec la demande du gouvernement de l'ancien gouvernement irakien de départ des forces internationales les plus importantes américaines de l'Irak. Et donc le gouvernement irakien dit qu'il n'y a plus de raison finalement à ce que ces milices continuent de détenir des armes sur le sol irakien.
Hassni Abidi, 46 drones interceptés au-dessus de Moscou, c'est le maire de la capitale russe qui l'annonce, sans dire s'il y a eu des blessés ou des dégâts. Depuis plusieurs mois, l'Ukraine intensifie ses frappes en territoire russe. Moscou, où le président biélorusse s'est rendu en fin de semaine dernière, avant de se rendre à Pékin hier, il y a rencontré son homologue chinois Xi Jinping. On ignore ce qu'ils se sont dit, mais ça démontre quand même une fois de plus les pressions auxquelles est soumis Alexandre Loukachenko avec ses visites qui se succèdent auprès de ses alliés pour parler, c'est le terme officiel, de sécurité régionale. Mais peut-on dire pour autant que c'est la preuve d'un engagement formel de Minsk dans la guerre en Ukraine ? Anissa El-Jabri, c'est à la fois prématuré et assez inéluctable.
Alexandre Loukachenko a déjà dû laisser l'armée russe passer par son pays en 2022 pour s'élancer à l'assaut de l'Ukraine. Sa coopération militaire avec la Russie est étroite. La Biélorussie stocke sur son sol des armes nucléaires russes et cela de plus en plus. Juillet 2023, premières arrivées. Mai 2026, nouvelles munitions et exercices conjoints impliquant leur usage. Décembre 2025, annonce de l'arrivée de missiles Oreshnik, un des symboles de l'engagement croissant de Minsk, mais ce n'est pas le seul. Reste que l'armée biélorusse est évaluée à 50 000 hommes. C'est environ un mois et demi de recrutement de l'armée russe pour sa guerre en Ukraine. Minsk profite aussi d'un réchauffement de ses relations avec Washington. Allègement de sanctions à la clé. En Europe, certains réfléchissent à ouvrir un dialogue. La population biélorusse, enfin, ne veut pas d'un conflit ouvert. Pas sûr toutefois qu'Alexandre Loukachenko ait beaucoup d'options. La relation Moscou-Minsk est asymétrique. Sa marge de manœuvre vis-à-vis de la Russie, déjà faible, est de plus en plus étroite. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Explosion hier dans la principauté de Monaco. Elle a eu lieu dans un immeuble résidentiel. Trois personnes blessées, parmi lesquelles un oligarque ukrainien accusé par son pays de poursuivre ses activités de commerce d'alcool en Crimée, et ce malgré l'occupation russe. Alors les autorités monégasques parlent d'un colis piégé sans accuser personne pour l'instant. Le prince Albert II a lui dénoncé un crime odieux. Télétravail obligatoire hier et aujourd'hui encore dans le secteur public hongrois, dans la mesure du possible, disent les autorités, alors que le pays fait face à son tour à une canicule. Près de 42 degrés enregistrés hier dans une ville du centre du pays qui n'est pas le seul à suffoquer. C'est le cas d'une partie de l'Europe de l'Est. L'Ouest, de son côté, y est passé aussi, mais ça va mieux, notamment en France, où les 10 jours de température record ont fait au moins 1000 morts supplémentaires par rapport au mois précédent. Alors forcément, les funérariums où l'on entrepose les corps avant les obsèques sont saturés. Les deux chambres funéraires de Paris, par exemple, sont complètes depuis samedi et doivent se tourner vers d'autres structures dans les banlieues proches de la capitale. Mais même là-bas, les places commencent à manquer, comme au funérarium international d'Orly, dans le sud de Paris. Reportage d'Oriane Gendreau.
Le funérarium va bientôt fermer, mais le téléphone ne cesse de sonner. Florent Poupeville, un des employés, explique qu'ils sont constamment sollicités depuis vendredi.
Normalement, on tourne à une cinquantaine, soixantaine de défunts par mois. Là, c'est simple, depuis cette vague de chaleur, on a multiplié par deux. Parce que les autres funérariums sont pris, donc forcément, au fur et à mesure, ils vont de plus en plus loin jusqu'à trouver une place de libre.
La région d'Île-de-France est particulièrement touchée par ces décès. Ce week-end, le funérarium a refusé plus d'une centaine de corps.
Tout le monde refuse parce qu'on ne peut pas, d'un point de vue légal, et d'un point de vue décence vis-à-vis des familles, on ne peut plus les accepter.
Et deviennent quoi ces corps ?
Pour l'instant, ils sont dans l'attente, c'est ça le problème. Alors après, du coup, il existe des solutions un petit peu alternatives. Soit les hôpitaux finalement dépannent, les gardent plus longtemps que prévu. Il y a aussi également après une solution annexe qui se veut, c'est sur des tables réfrigérées. Mais ça reste de l'attente.
Pour soulager les funérariums, Pascal Caton, le président de la Fédération Nationale du Funéraire, se tourne lui du côté des crématoriums.
Commencer les crémations plutôt que ce qu'on fait habituellement, ouvrir 6 jours sur 7. Qu'on puisse toutes les semaines avoir une vingtaine, une trentaine de crémations supplémentaires, afin d'éviter qu'il y ait trop de défunts qui reposent dans les chambres funéraires, qui nous empêcheraient de pouvoir en accueillir d'autres.
Faute de solution, une morgue temporaire pourrait être installée dans le marché international de Rungis.
Un reportage d'Oriane Gendreau. Beaucoup plus légèrement, je vous rappelle la victoire il y a quelques minutes du Maroc au mondial masculin de football. Victoire au tir au but Face aux Pays-Bas, il y avait 1-1 après la phase du match, avant donc les tirs au but. Le Maroc est donc qualifié pour les huitièmes de finale de cette compétition après avoir atteint les demi-finales lors de la dernière édition. On aura l'occasion d'y revenir évidemment ce matin dans nos journaux et notamment dans les journaux de ce mondial.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans très exactement 17 minutes. D'ici là, on est en Inde. On va voir que les autorités incitent de plus en plus les automobilistes à acheter électrique. La journaliste et réalisatrice Estelle Janjo sera notre invitée culture, elle qui co-signe un documentaire sur TV5 Monde pour expliquer ce que ça veut dire de vivre avec une peau noire en France aujourd'hui. Et puis voyager, oui, mais bien se préparer pour le faire, ce sera notre conseil santé du jour. Mais d'abord, on part à Cuba, un pays où les habitants souffrent du blocus énergétique imposé par le président américain Donald Trump. Il y a les pénuries d'électricité, celles de carburant, de médicaments ou encore de toute fourniture médicale. Bref, tout ce qui sert normalement à faire tourner un système de santé. Alors forcément, les patients en pâtissent. Après avoir longtemps été parmi les pays au ratio médecin-patient le plus élevé, eh bien la situation s'est quelque peu inversée à Cuba. L'OMS s'inquiète désormais d'interventions chirurgicales retardées. Même dans les hôpitaux de niveau 3, les plus spécialisés et sophistiqués du pays, eh bien le personnel médical voit son rythme de travail complètement bouleversé. Reportage à l'Institut National de Néphrologie de la Havane qui se maintient debout en dépit de ses difficultés.
Mi va vent, bibon la mondos mi. La langue, si la langue en bouton rose va fondre, pays bon la mondose. Si la langue en bouton rose, à part, n'a plein secret de miel d'un moubertel. Tipé à l'osier dans l'ombre. Ciel, il fan la vie d'un mon sommeil. À part, tantôt, cabaye d'un balakaba. N'a son lot des romans, c'est piste d'un tas. Citron galé, son bécaba. Citron galé, mon braillant. Pipangaï, joué marel, le ciel, trésor, le mot, bonbon, l'orio. Ama, tapis volant, sans ton bras, ama. Sourire, bord de rêve, mon lot sacré, pagaille. Il fane le temps, va manquer.
Tout savoir sur votre ville et ses petits secrets, Radio Corbeau.
Allez, laissez tomber maintenant.
Radio Corbeau.
Ce serait plutôt de vous occuper de cette radio, elle est illégale.
La monnaie qui a porté plainte.
Et sinon, changer. Pour le mix des cultures, c'est sur le 102.4 à Évreux, 95.9 dans le sud de l'Eure et sur www.principactif.net.
أسطوانات الوزيز الشيخ الرميتي والحاج الحبيب والمنور أولاد الجزائر أولاد الجزائر أولاد الجزائر ويا الشعب المناضل كي الأم وكي كي القاري سيروها وتعاهدوك لأمك القاري يا أولاد الجزائر نبعت كل عناصر في 19 الصافر نبعت كل عناصر أولاد الجزائر يا واللي اخطى الحق استاخر واطلع البدر السيري من اخطى الحق استاخر وركب البدر السيري سمع ليهم الطاعة واهل العلوم اللماعة